Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Bienvenue sur Point d'orgue. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro où aujourd'hui encore nous allons écouter des merveilles du répertoire de la musique liturgique et de la musique sacrée. Évidemment, vous vous doutez bien que en cette semaine sainte, j'ai pléthore de choses à vous faire écouter. J'ai dû faire un choix. Alors l'an dernier, je pense que je vous avais présenté des extraits, notamment des Passions de Jean-Sébastien Bach. Cette année, je vais me concentrer sur des œuvres vocales et instrumentales beaucoup plus rares, mais de très haute facture. Vous allez pouvoir l'entendre, un peu plus atypique peut-être, mais ô combien riche en musicalité. On va commencer sans plus attendre par le premier morceau que je vais vous faire découvrir. Il n'y en aura que deux, hein, parce que le deuxième est un peu long, vous allez bien l'entendre. Il s'agit d'un extrait, ça ne sera pas toute l'œuvre, mais ça vous donnera peut-être envie de l'écouter. Il s'agit du début du Via Crucis de Franz Liszt. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous faire écouter cela? Non seulement parce que c'est un petit peu atypique, c'est une œuvre qui est assez connue pour les musiciens, mais du grand public, c'est une œuvre qui reste assez intimiste. Donc je voulais vous la faire découvrir. Et ensuite, elle constitue une très belle entrée en matière. Alors, pour vous en parler de manière un petit peu globale, donc c'est un morceau qui dure à peu près 50 minutes et qui est fait pour chœur. Et, alors là, ça diffère selon les versions, piano, harmonium ou orgue. En vérité, la façon dont Liszt voulait le faire, c'était avec un harmonium. En fait, il avait imaginé ça dans le cadre du chemin de croix à Rome, au Colisée. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir le chemin de croix à Rome, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, monumental et spectaculaire. Et lui, il a imaginé la musique qui pouvait se faire par-dessus. Et il imaginait l'harmonium, qui est un instrument extrêmement expressif, remplissant le Colisée, parce que ça se fait au Colisée. Et donc, c'est cette version avec l'harmonium qui a été préférée par l'auteur, mais qu'ici, vous n'entendrez pas avec l'harmonium, et vous verrez, elles veulent toutes dire quelque chose d'assez différent. Alors, cette œuvre commence avec le Vexilla Regis, qui est tout simplement l'hymne qui est chanté pendant les rameaux, où on a cette espèce d'étendard, c'est ce que veut dire le texte, d'étendard pour ce Dieu de gloire qui arrive. Donc c'est l'entrée très glorieuse de Jésus du Christ à Jérusalem, et qui est immédiatement suivi d'un autre chœur beaucoup plus dépouillé, vous allez l'entendre, avec une salutation à la croix. Parce qu'il ne faut pas oublier cette ambivalence extraordinaire qui existe dans les rameaux, entre la gloire du Christ qui rentre royale, et en même temps le roi crucifié une semaine plus tard dans cette même ville. Et en fait, c'est tout l'objectif que veut ici faire Liszt. Alors vous allez entendre, le Vexilla Regis est tout simplement copié du Vexilla Regis grégorien qu'il a harmonisé. Donc là, vous avez encore cette chose chère à mon cœur qui est la réutilisation du grégorien avec une réharmonisation beaucoup plus contemporaine. Alors quand on parle de contemporain pour nous, là-bas c'était le 19e siècle. Hein. Franz Liszt est un compositeur hongrois du 19e siècle. Et il y a cette espèce de volonté de vraiment de grandeur. Vous allez entendre, tout le chœur chante à l'unisson, et vous avez cette espèce de vocable très royal, très grand, qui va faire de ça une œuvre vraiment grandiose. Et ensuite, après, quelque chose de beaucoup plus intime et dépouillé, je vous l'avais dit, avec la salutation de la croix. Alors, le ton est donné dès la fin du Vexilla Regis, en fait, où vous avez un Amen qui termine très tristement avec le chœur, puis repris simplement par les accords de l'orgue, de l'harmonium ou du piano. En ré mineur. Et ensuite, vous avez cette salutation de la croix que vous allez entendre assez rapidement et qui, là, et change totalement d'atmosphère et qui va nous lancer dans cette ambiance du Via Crucis. Le reste des stations du Via Crucis est assez extraordinaire parce que vous avez une alternance entre les chœurs, les solistes et l'instrument soliste qui, parfois, fait des stations entières seules avec une immense virtuosité. Et c'est un chemin extrêmement imagé parce que parfois il n'y a pas de parole, mais tout est dit dans la musique finalement. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans la façon dont Liszt a conduit cette œuvre, c'est qu'elle est pluraliste, on va dire, non seulement parce qu'il y a des alternances avec le chœur, les solistes et l'instrument, mais également parce qu'il y a d'autres langues, notamment la sixième station, celle de Sainte-Véronique, où il va reprendre un choral de Bach, qu'il va réharmoniser, et qu'il va écrire en allemand, alors que tout le texte est en latin, et vous avez également d'autres stations qui font ces références-là. Donc c'est une œuvre presque œcuménique, on va dire, qui se veut le plus parlant au plus de monde possible. Évidemment, je ne peux pas vous mettre ces 50 minutes de musique, donc voici le début pour vous, c'est-à-dire le Vexilla Regis et la salutation à la croix qui font le prélude de ce Via Crucis de Franz Liszt.
¶¶
Si cet extrait du Via Crucis, ce début du Via Crucis vous a plu, sachez que la Schola Cantorum que je dirige le jouera en concert le 20 avril prochain à 18h à la Chapelle des Carmélites. C'est un concert gratuit. Ça sera à l'Harmonium avec Emmanuel Pellaprin, un spécialiste du genre. Donc venez nombreux pour ce beau concert, gratuit, je le répète, à la Chapelle des Carmélites, un magnifique écrin, le 20 avril prochain à 18h. Maintenant qu'on a un petit peu entrouvert la porte de cette semaine sainte, si j'ose le dire, et que le cadre est posé avec quelque chose qui est entre l'obscène, entre le merveilleux, entre l'inconnu, entre la douleur et la souffrance, tous ces thèmes finalement liés qui font du répertoire souvent quelque chose d'assez poignant. Et alors je me suis posé la question de vous faire entendre quelque chose d'autre de poignant, d'énorme à l'image de la semaine que nous allons passer ensemble d'un point de vue spirituel et qui bien entendu a été très bien traduit par les musiciens. Et évidemment se pose la question dans la semaine sainte du Miserere. Et le Miserere, bien entendu, qu'on a envie tout de suite de vous faire découvrir, c'est celui de Allegri. Vous savez, cette espèce de fresque musicale absolument gigantesque qui fut l'apanage des simples choristes, des seuls choristes de la Chapelle Sixtine pendant des siècles, sous peine d'excommunication si c'était exporté. Et finalement, voilà, il y avait cette envie de vous faire découvrir ça. Mais pas plus tard que tout à l'heure, il s'avère que j'en ai découvert un autre, contemporain, c'est celui de James Macmillan. Alors, c'est un compositeur écossais qui est encore vivant et qui va nous proposer sa lecture du Miserere. Alors, elle est extrêmement touchante parce qu'elle fait quelques clins d'œil, bien entendu, au passé et notamment à celui d'Allegri. Si vous l'avez en tête, celui d'Allegri, tant mieux. Sinon, je vous invite à le découvrir. Là aussi, il s'agit d'une des plus belles pages de la musique sacrée. En tout cas, à mon sens, c'est la plus belle œuvre vocale jamais écrite. Ce Miserere de Macmillan, alors qui reprend les affres un petit peu du psaume 50, hein, si vous voulez vous référer au texte, il est complet par la forme, c'est-à-dire qu'il est très protéiforme. Vous allez voir, il commence assez doucement par un chœur d'homme, puis peu à peu il va se diversifier. Alors il y a 8 voix en tout, donc quelque chose d'assez ample finalement. Et comme je vous le disais, des références au passé. Il y a carrément des clins d'œil au style ancien. Il y a la psalmodie également qui est reprise, alors certes harmonisée différemment, mais c'est la même psalmodie finalement qui est chantée pendant le Miserere d'Allegri. Donc il y a ces petits clins d'œil qui émaillent l'œuvre et qui font de ça un joyau dans le joyau, parce que vous allez l'entendre, la musique est absolument extraordinaire. Donc très moderne par son approche. Vous allez entendre qu'il y a quelques procédés, notamment rythmiques, qui sont assez inhabituels. Vous avez des appoggiatures assez fréquentes qui viennent déséquilibrer le texte, comme si on trébuchait avec le Christ sous le poids de la croix. Vous avez des trémolos, des vibrations, presque comme les sanglots de la voix. Vous avez beaucoup de petits artifices comme ça qui font en sorte, enfin qui mettent en scène finalement cette douleur et cette demande de pitié qui est adressée au Seigneur. Donc je vous en dis pas plus parce que la musique parle d'elle-même à mon sens parfaitement quand vous écoutez cette musique-là. Je vous laisse donc découvrir le Miserere Mei de James Macmillan.
Oh.
C'est avec cet accord parfait et en toute quiétude que je vous laisse désormais profiter de cette semaine sainte en musique avec ce que j'ai pu vous faire découvrir. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour musical. Quant à moi, je vous rappelle le prochain concert de la Schola Cantorum que je dirigerai. Donc n'oubliez pas, le 20 avril à 18h à la Chapelle des Carmélites, c'est un concert gratuit. Ça sera le Via Crucis de Franz Liszt, une magnifique œuvre d'un peu moins d'une heure que vous entendrez avec le chœur de chambre de la Schola et Emmanuel Pellapra à l'harmonium avec son harmonium d'art, là aussi à ne pas louper parce que c'est une occasion rare. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour la résurrection pour Pâques.